Ô Dieu, nos âmes recueillies en ta sainte présence, sont à l'écoute de ta voix que tu veux encore nous faire entendre par ta parole. Et nous savons que ce matin, tu veux fixer nos regards sur celui qui est ton bien-aimé de toute éternité, en qui tu as toujours trouvé tes délices, et que tu nous as donné pour que nous aussi, nous ayons communion avec toi, et que dans notre vie, même terrestre, nous connaissions le bonheur de Dieu, de cet être infini qui seul peut remplir tout le vide de nos cœurs. Ô Dieu d'amour, accorde-nous par la puissance de ton esprit d'être ce matin devant toi, des hommes et des femmes, humbles, petits devant ta face, et qui voient ta grandeur, ta bonté, sur la face de celui que tu veux nous révéler, Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Frères et sœurs, la nuit où Jésus fut livré, il a prononcé ces paroles dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean, parlant du Saint-Esprit. Il disait ceci au verset 7e. Je vous le dis, c'est la vérité. Il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et nous savons que cela a eu lieu le jour de la Pentecôte, après que Jésus, crucifié, ressuscité, ayant passé encore 40 jours avec ses disciples, a été vu par eux montant au ciel en les bénissant. 10 jours plus tard, cette promesse qu'il leur avait renouvelée, que le Père enverrait son esprit aux croyants et en ferait des témoins, ayant reçu une puissance pour apporter ce témoignage, non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Après leur avoir dit ces choses, Jésus a accompli sa promesse. Le Saint-Esprit est venu. Et quelle a été l'œuvre du Saint-Esprit depuis? Verset 8 du chapitre 16. Quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit pas en moi. De justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me voyez plus. De jugement, parce que le chef de ce monde est jugé. Ainsi parlait Jésus la nuit où il fut livré. Avons-nous été dans cette fin de semaine sous l'action du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit agit, il convainc les âmes de péché. Et je voudrais vous poser au nom du Seigneur cette question, qui que vous soyez, sur un point ou sur un autre. Avez-vous été convaincu de péché dans ces moments que nous avons passés à l'écoute de la parole du Dieu vivant? Parce que tout est là. Si le péché ne nous a pas été dévoilé, nous continuerons notre vie dans la médiocrité. Il faut que le péché en nous soit dévoilé. Et une fois que le péché est dévoilé, le Saint-Esprit nous amène à le confesser, à dire c'est vrai. Hier, nous avons vu sur ce tableau ce texte écrit. Et j'espère que vous l'avez appris par cœur, quand Paul dit, c'est une parole certaine, que le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis le premier, c'est-à-dire le pire des pécheurs. Et pourquoi est-ce qu'il a pu dire cela? Quel est le pire des péchés? Quand le Saint-Esprit agit dans les cœurs, savez-vous ce que c'est que le pire des péchés? Et moi, est-ce que je le sais? C'est dit clairement ici. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas cru en moi. S'il y a ici une seule âme qui ne croit pas encore au Seigneur Jésus, qui ne croit pas encore ses paroles, qui a un doute sur ses paroles, qui ne sont pas les miennes, mais qui sont les siennes, et qui sont les paroles mêmes de Dieu, eh bien c'est cela votre péché. C'est là le pire des péchés. Le pire des péchés, ce péché qui ne peut pas être pardonné, c'est l'incrédulité, c'est de ne pas croire en Jésus. Mais que faut-il être pour repousser Jésus? Parce que si vous ne croyez pas en lui, c'est que vous le repoussez. Nous aimons une foule de choses, nous sommes attirés dans le monde par une foule de choses dont nous devrions avoir honte. Les choses que nous préférons au Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'ouvrons pas encore la porte au Seigneur? C'est parce que nous voudrions conserver certaines choses, mais des choses qui, dans la lumière de Dieu, tout à coup nous sont révélées et nous font honte. Vous vous souvenez de cette journée où Jésus, ayant délivré un démoniaque dans le pays des Gadaréniens, eh bien, lorsque ces gens ont vu leur pourceau s'en aller, se noyer dans la mer, ils ont manifesté ouvertement qu'ils préféraient les cochons au Seigneur. Ils ont demandé au Seigneur de s'en aller, de se retirer de leur territoire. Et pour quelle raison ? Parce qu'ils avaient perdu 2000 cochons. Combien de cochons avons-nous encore dans notre cœur pour que nous ne laissions pas le Seigneur entrer ? Ce Seigneur qui voudrait tout nettoyer, ce Seigneur qui voudrait enfin vous libérer de toutes ces impuretés, de toutes ces déceptions qui se sont accumulées au cours de votre existence, qui n'est peut-être pas encore très longue, mais qui vous fait soupirer après la fin de cette existence parce que vous n'en êtes pas glorieux. Alors que Jésus, lui, voudrait votre existence pour lui parce qu'il voudrait se servir de vous pour que vous puissiez l'honorer, le glorifier et apporter des paroles de grâce à des gens plus malheureux que vous encore. Car le Seigneur vous convoite, si j'ose employer cette expression. Il vous aime tant qu'il vous voudrait pour lui. Il a besoin de vous pour porter son nom. Il n'a pas besoin de n'importe qui. Il a besoin de toi. De toi. Et il s'adresse à toi. Je ne vais pas donner des noms, mais lui, il vous connaît par vos noms. Et il vous dit, toi, suis-moi. Ne pense pas aux autres. Toi, ce matin du 14 octobre, suis-moi. Voulez-vous lui faire confiance? C'est pas n'importe qui vous appelle. C'est Jésus. Et nous voulons nous souvenir de Jésus. Qui est Jésus? N'est-il pas aimable? Lui qui est doux et humble de cœur, qui disait, venez à moi. Oh, vous savez bien les appels que le monde vous fait. Le monde aussi essaye de vous attirer. Mais quand Jésus vous dit, venez à moi, ce n'est pas la voix d'un trompeur, parce que le monde, quand il nous attire, c'est pour nous posséder, et nous ayant possédé, nous ayant pressé comme un citron, il nous relaie après. Quand le monde ne peut plus rien tirer de vous, on vous abandonne, et vous êtes seul, désespérément seul. C'est pourquoi, quand Jésus dit, venez à moi, il a pu ajouter, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce qu'au fond, le monde vous fait croire qu'il vous donne quelque chose, mais il vous prend. Le monde vous possède. Et le joug du monde, il est lourd à porter. Ce fardeau, il est pesant. Le joug de Jésus, il est doux. Et vous ne voudriez pas le croire. Il est doux. Et vous savez jusqu'où va l'amour de Jésus pour vous? De l'amour qu'a Jésus pour vous le conduit à toutes les souffrances pour vous. Il est prêt à endurer toutes les douleurs. C'est du reste le nom qui lui a été donné par le prophète 700 ans avant qu'il ne vienne. Homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, délaissé, et tout cela pour vous, il accepte toutes les douleurs par amour pour vous, et il va plus loin qu'être l'homme de douleur. Il accepte que les fautes que vous avez commises, les erreurs que vous avez faites, les iniquités qui vous accablent, et qui trouble peut-être même votre conscience, même qu'on essaye d'apaiser sa conscience, et pourtant on a la conscience chargée, on a la conscience souillée, on n'est pas si glorieux. Eh bien, il vous dit, mais tout cela, ne t'en préoccupe pas, je prends tout cela. Je t'aime tellement que je me rends responsable pour toi devant le Dieu trois fois saint. Je me rends responsable pour toi de tout ce que tu as fait. Mais j'ai justement pris un corps de chair pour que tout ce que tu as fait dans la chair soit jugé dans ma chair, pour qu'il y ait réellement expiation, et que quand je parle du pardon de Dieu, tu saches que ton péché que tu as commis a été non pas simplement effacé par un coup d'éponge de la miséricorde de Dieu, mais expié par ma vie qui a supporté tous les tourments que tu aurais dû avoir dans l'éternité. C'est moi qui les ai supportés en mon corps sur la croix pour que toi tu aies une conscience apaisée et que tu saches que Dieu est juste en te déclarant juste. Vous ne croyez pas que c'est merveilleux? L'amour de Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait dans le chapitre 10 de Jean? Il disait ceci, à cause de ceci, le Père m'aime. À cause de quoi? Il m'aime, mon Père, parce que je donne ma vie pour mes brebis. Brebis égarées, brebis perdues, brebis solitaires, brebis blessées, brebis vraiment malades. Tu ne rencontres pas en Jésus un boucher pour t'achever. Tu rencontres en Jésus un bon berger qui te cherche depuis si longtemps et qui t'a donné rendez-vous dans ce 14 octobre pour te trouver. Il te voit et il t'aime. Pour te ramener, toi qui le connais déjà, mais qui t'es écarté du chemin, ou qui sans en avoir bien conscience est en train de t'écarter, et puis tout à coup, 14 octobre, le Seigneur t'a amené ici, devant sa table, pour que quelque chose ne se produise pas, pour que quelque chose change, et que tu reçoives sa grâce, de triompher de la tentation dans laquelle tu te trouves. Brebis égarée, brebis blessée, il va panser ta blessure. Brebis malade, brebis sans force, il va te prendre sur ses propres épaules, et il va te porter jusqu'à la maison du Père. Je vais te porter, mes sœurs, mes frères déjà âgés parmi vous, laissez-vous porter par le Seigneur. Le Seigneur ne vous demande pas de vous porter, il vous demande de vous laisser porter. Je l'ai fait, dit Dieu dans sa parole, et je veux encore le faire. Je l'ai fait dès votre jeunesse, même que vous n'aviez pas conscience que je prenais soin de vous. Mais je l'ai fait. C'est moi qui vous ai amené jusqu'ici. Je l'ai fait. Tu n'étais pas conscient de cela. Mais c'est moi qui étais là. Je t'ai gardé, même que tu ne me connaissais pas, même que tu te moquais de moi. Moi, je t'aimais. Et maintenant, je voudrais t'en rendre conscient. Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. Pourquoi? Le péché, eh bien, c'est pas de faire des choses mauvaises, mais c'est de ne pas vouloir croire en lui. C'est Jésus qui dit cela. Le Saint-Esprit convainc le monde de péché parce que le monde ne croit pas en lui. Et vous aimeriez encore le monde quand vous voyez ce que le monde a fait à Jésus? Est-ce que ça ne vous ouvre pas les yeux? Et si le monde a pu faire à Jésus ce qu'il lui a fait, au seul être aimable, vous qui n'êtes pas si aimable que cela, et moi qui suis détestable par nature, et qui peux me faire détester. Alors, si le monde a traité Jésus comme un infâme, à quoi puis-je m'attendre, tôt ou tard, de la part du monde? Ce monde qui aime à torturer, comme vous le savez, dans les prisons horribles, qui aime à battre des hommes, des femmes, à commettre toute espèce d'ignominie sur des corps qu'ils savent sensibles, qu'ils savent susceptibles de souffrir, d'hurler. Dans ces séances de torture, on a torturé le seul juste. Avant même de le crucifier, il a fallu qu'on lui crache au visage. Il a fallu qu'on lui donne des soufflets. Il a fallu qu'on lui ôte sa tunique et que sur ce corps nu, on frappe sur le dos, sur la poitrine, sur les côtés, 39 coups, 40 coups moins un, dit la parole, selon la loi. De sorte que le Seigneur, avant d'être crucifié, avait son dos complètement labouré. Et non seulement cela, mais on l'a couronné d'épines et on lui a enfoncé cette couronne pour se moquer de lui. Tu es roi, ben voilà ta couronne. Couronne d'épines enfoncée à coups de roseau sur sa tête, de sorte qu'il était tout sanglant quand il s'en allait portant sa croix, alors que le juge avait dit: il n'y a aucun crime en cet homme. Et cela ne touche pas à vos cœurs. Saint Paul avait été tellement touché par la révélation spirituelle qu'il avait reçue de la crucifixion, car il ne l'avait pas vu de ses yeux de chair, mais il l'avait contemplé dans une révélation de telle manière que quand il en parlait, il disait aux Galates: mais je vous ai dépeint Jésus-Christ crucifié au milieu de vous. Pourquoi détournez-vous vos regards du Christ en croix? Ce Christ en croix qui seul peut vous donner la mesure de la méchanceté humaine. La méchanceté humaine. Oh, nous avons été bien dans cette retraite. Nous étions choyés, chacun avait sa chambre, chacun avait son lit. Nous avions la nourriture. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui souffrent dans leur corps, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'on les rend malades, parce qu'on les torture affreusement. Et qui sont ces gens qui torturent? Oh, ils peuvent même avoir été baptisés. Ils peuvent même être protestants, catholiques, ils peuvent être tout ce que vous voulez, orthodoxes. Dans tous ces pays-là où règnent ces religions, on torture encore. On peut être musulman, croire en un seul Dieu, à Allah, et croire que Mahomet est son prophète. Cela n'empêche pas de torturer. On peut être bouddhiste et torturer aussi. Hindouiste est torturé encore. Partout, le cœur de l'homme se révèle le même. Jésus a été crucifié. Souviens-toi de Jésus-Christ, de ce qu'il était. Pourquoi l'a-t-on crucifié? Parce qu'il aimait, au milieu d'un monde qui n'aime pas, lui aimait. Alors si nous n'aimons pas celui qui aime, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'Esprit me révèle de mon cœur? Si je n'aime pas celui qui aime, et qui a tant aimé, et qui l'a prouvé en donnant sa vie, c'est que je suis méchant. À cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi, je donne ma vie pour mes brebis. Et ces brebis, c'était des brebis perdues. C'était des brebis qui suivaient leur propre chemin. C'était des brebis qui méritaient la mort. Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu notre salut. Et pour que vous soyez sûrs de ce salut, si le Saint-Esprit a eu une action parmi vous ce matin, quelle a été son action? Après nous convaincre de péché, donc c'est pas besoin de chercher plus loin, mon péché c'est de ne pas avoir encore reçu Jésus, bien je ne vais pas continuer. Il convaincra le monde de justice. Vous vous souvenez que sur la croix, Jésus, justement parce qu'il portait nos péchés, a connu la séparation d'avec Dieu dont je parlais simplement ce matin, quand il s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand cloué entre le ciel et la terre, puisqu'il avait revêtu ce corps de chair qui était sans péché mais couvert de nos péchés, il était pendu là. Tout ce poids de son corps le tirait de tous côtés vers la terre, et il était entre le ciel et la terre. La terre était de fer pour lui, mais le ciel aussi était fermé, le ciel était d'airain. Aucune réponse à sa prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Elle est le monde passé, disait. Mais est-ce que Dieu ne va pas lui répondre? Il s'est confié en Dieu. Eh bien, c'est maintenant qu'on va voir si réellement c'est le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, il pourrait d'abord descendre lui-même de la croix. Il a sauvé les autres, puis il ne peut pas se sauver lui-même. Puis les brigands aussi l'insultaient, tous les deux d'abord, puis un finalement a été touché en voyant l'attitude de Jésus en croix. Brigand touché, et toi, tu ne serais pas touché dans cette retraite où nous avons tout centré sur la personne de Jésus, dont ton cœur resterait dur. Ah, si la réponse n'est pas venue au moment où Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle est pourtant venue, plus merveilleuse, plus belle encore, quand Jésus, lui, a baissé la tête. Et vous, est-ce que vous voulez baisser la tête? Pourquoi est-ce que vous ne cédez pas au Seigneur? Vous avez encore la nuque raide, vous voulez encore faire votre volonté, vous voulez encore suivre vos propres voies alors que vous savez bien qu'elles vous mènent à la mort. Mes frères et sœurs, Jésus, quand il a eu tout accompli, quand il s'est laissé encore abreuver de tout le vinaigre qui était dans votre cœur, parce que c'est ça qu'on lui a donné à boire, quand il a dit « j'ai soif ». Et je voudrais souligner que, en ce 14 octobre, Jésus passe vers chacun de vous, et il regarde votre cœur, puis il voit qu'il y a encore du vinaigre, de l'amertume, puis il vous dit « j'ai soif ». Qu'est-ce que vous voulez lui offrir, vous? Du vinaigre. Il dit « oui, donne-moi ton vinaigre. Donne-moi ton vinaigre. Laisse l'éponge plonger dans ton cœur pour qu'il soit réellement vide de tout ce vinaigre. Moi, je vais boire ça. Je vais relever le poison qui est dans ta vie. Je vais le boire pour que toi, tu sois libéré et que tu connaisses autre chose dans ton cœur. Mais laisse-moi boire ton vinaigre. J'ai soif. » Et quand il eut bu le vinaigre, Jésus s'écrie « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », puis il baisse la tête, il meurt. Tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait. C'est la réussite par sa mort. S'il n'était pas mort, nous ne serions pas sauvés. Il est mort pour nos péchés. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Ça, c'est fait. Nos péchés devaient être expiés. Le salaire du péché, c'était quoi? La mort. Et Dieu, c'est lui qui est mort. Il nous a aimés à ce point de mourir pour nous. Il est mort pour vos péchés. Et il a donné sa vie pour nous. Et cela, ça a tellement plu à son Père. De voir que son Fils l'aimait tellement qu'il voulait que sa création réussisse et que les hommes qui s'étaient pervertis, dévoyés, qui s'étaient éloignés de lui, arrivent quand même à la gloire, quand le Père a vu cela et que tout a été consommé, que son Fils a été mis dans la tombe, que ce saint corps de Jésus, mutilé, a été mis dans la tombe, que la pierre a été roulée, qu'est-ce que le Père a fait? Par la puissance de son esprit, il a ressuscité son Fils. Miracle beaucoup plus grand que de le faire descendre de la croix. Parce qu'on dirait toujours, il n'a jamais été mort. Mais il était mort, réellement mort, et enterré, enseveli. Mais voilà que la pierre est roulée, c'est les splendeurs du matin de Pâques. Jésus est entré dans la mort, il a vaincu la mort, et celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, dit l'Écriture, il a lié l'homme fort, il a pillé ses biens, il en est sorti vainqueur pour nous montrer qu'il nous frayait un passage à travers la mort pour que nous aussi nous ne restions pas les captifs de la mort, que nous ayons l'assurance de la délivrance et de la vie éternelle. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde de justice. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est juste? Parce qu'il n'a pas laissé cette iniquité sans réponse. Il a montré que son Fils était juste. Et comment l'a-t-il montré? En le ressuscitant d'entre les morts. Le monde est convaincu de justice. Si Jésus se promenait encore sur la terre, on ne le saurait pas. Mais justement, le Saint-Esprit nous convainc de justice parce que Jésus n'est plus visible. Pourquoi? Parce que quand Jésus a été visible, qu'est-ce qu'on lui a fait? Visible dans un corps de chair, dans un corps, ce corps de faiblesse qu'il avait revêtu. On l'a tué. Alors Dieu, le ressuscitant, l'a fait monter dans sa gloire. Il convaincra le monde de justice parce que vous ne me verrez plus, parce que je m'en vais au Père. Justement, de ne pas voir Jésus aujourd'hui, ça nous convainc que Dieu est juste. Il a enlevé le seul juste auprès de lui. Mais il est vivant auprès de lui. Et que fait-il là? Debout auprès de Dieu, à la droite de Dieu, il intercède pour vous. Et dans ce 14 octobre, il prie pour vous, pour que tu sois convaincu que Dieu, en ressuscitant son Fils, a voulu te dire ce qu'il a fait est vrai pour toi. Jésus est ressuscité pour que tu saches que tu es justifié. Si Jésus était resté dans la mort, il aurait été qu'un grand martyr. On ne saurait pas que son œuvre parfaite est accomplie. Et maintenant, on sait par sa résurrection que Jésus est vivant. Le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes justifiés. Il est mort pour nos fautes, il est ressuscité pour notre justification. Je sais que Jésus est ressuscité. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Le Saint-Esprit me convainc de justice. Mais finalement, le Saint-Esprit nous convaincra le monde encore de quoi? Après la conviction de péché, la conviction de justice, il convaincra le monde de jugement. Si vous ne voulez pas l'accepter, il n'y a plus que le jugement. Il n'y a plus que le jugement pour ceux qui ne veulent pas l'accepter. Il n'y a plus que le jugement. Parce que le prince de ce monde, qui est le prince de ce monde, c'est Satan. Il est déjà jugé. Et il va au-devant de son jugement. Avez-vous été sous l'action du Saint-Esprit? Celui qui ne reçoit pas Jésus, la colère de Dieu demeure sur lui. Et il n'y a plus que le jugement. Mais nous ne voudrions pas que vous repartiez avec ce sentiment du jugement. Car Jésus est mort, non seulement pour vos péchés. Nous résumons tout maintenant. Pourquoi est-ce qu'il est dit que chaque fois que nous communions à la table du Seigneur, comme Jésus l'a institué dans ce repas pascal, à un moment donné, il a pris du pain, puis il a pris le vin qui était là sur la table, puis il a rompu le pain, puis il a dit, prenez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Il allait le faire, il allait vraiment donner son corps. Et puis il a dit ensuite, en donnant la coupe, ceci est mon sang, qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Et dans toute l'écriture, il est dit ce que c'est que le sang. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Vous n'êtes pas racheté de votre vaine manière de vivre par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux de Christ. Par la vie de Jésus, par la vie du Christ, ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour la rémission des péchés de plusieurs. Pourquoi plusieurs? Le sang a été versé pour tous, mais pourquoi est-ce qu'il n'a efficacité que sur les plusieurs? Qui sont ces plusieurs? Ceux qui croient. Alors, voulez-vous être de ces plusieurs? Et si vous ne l'avez pas été jusqu'à aujourd'hui, voulez-vous l'être depuis aujourd'hui, 14 octobre? Vous ajoutez à ces plusieurs pour que vous fassiez partie de ces plusieurs pour lesquels il a versé son sang, il n'a pas versé pour rien, il l'a versé pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois racheté. Tu n'es pas racheté sans prix, tu es racheté à un grand prix, par la vie du Seigneur. Vous tous qui êtes ici, et moi qui suis ici, je demande que l'Esprit Saint me convainque du prix de mon rachat. On dit toujours qu'on est sauvé par grâce, c'est vrai. Hein? Mais le prix de la grâce, c'est le sang de Jésus, c'est cette vie donnée. Et alors, qu'est-ce que nous faisons à la table du Seigneur? Eh bien, quand nous mangeons ce pain et que nous buvons à la coupe, nous témoignons que nous avons réellement communion à ce corps qui a été donné et à ce sang qui a été versé. Quelquefois, j'ai été amené à dire que manger, c'était aimer. Et boire, c'était croire. Alors, c'est pas simplement un geste machinal que nous allons faire, prendre une parcelle de pain et on mange ce morceau de pain, ou prendre une gorgée de vin et on a bu. On doit, en mangeant et en buvant, discerner le corps et le sang du Seigneur. Être vraiment dans la communion, avoir une part commune avec ce Jésus, c'est ça la communion. Nous avons une part commune. C'est pas un geste qui nous laisse tel que nous sommes, c'est un geste qui nous renouvelle. Nous ne renouvelons pas le sacrifice, nous l'actualisons, nous nous replaçons devant l'unique sacrifice. C'est une fois pour toutes qui ne peut pas être renouvelé le sacrifice, mais il est là. Nous annonçons la mort du Seigneur. Mais nous disons que chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons à la coupe, eh bien, c'est le renouvellement de notre communion à sa mort, à sa résurrection. Et cela, voyez-vous, nous transforme et nous garde de la puissance du mal et du péché. Il y a dans la réponse que nous faisons à l'appel du Seigneur qui a dit « Faites ceci en mémoire de moi », eh bien, il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement spirituel qui se produit en nous pour nous aider à marcher dans la semaine comme Jésus a marché par le Saint-Esprit qui a des affections autres que les affections de la chair, qui nous donne des aspirations autres que les convoitises du monde. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Chaque fois que nous annonçons la mort du Seigneur, nous confessons que non seulement il est mort pour nos péchés, c'est réglé la question du péché, mais que nous sommes aussi morts avec lui. Que nous avons accepté de mourir dans sa mort pour pouvoir renaître dans sa résurrection, ce que symbolise le baptême. Mais on pourrait être baptisé plusieurs fois sans que ce soit vrai. C'est pas l'acte extérieur du baptême qui fait cela. C'est la foi au Seigneur Jésus. Après, on peut emporter le signe, qui est l'engagement visible. Mais, mes bien-aimés, vous savez que toutes les églises sont en travail sur ce sujet-là. Même l'église romaine qui baptise les enfants, comme les églises aussi protestantes, tous sont en travail en se disant, mais on a baptisé tout ce monde, et puis c'est pas des chrétiens pour autant, on les a baptisés. Et c'est pour ça que le pape disait aux enfants, qui est-ce qui se souvient de son baptême? C'était une parole très forte, il fallait la comprendre. Parce que pourquoi est-ce qu'il disait ça? Pour montrer que l'enfant ne pouvait pas s'en souvenir. Mais qui est-ce qui était là avec les enfants? Les parents qui ont prétendu s'engager, eux, d'élever leur enfant dans la foi chrétienne en leur mettant d'avance le signe de la mort de Christ sur eux. Car c'est ça le baptême, le signe de la mort de Christ, c'est notre identification au Christ dans sa mort. C'est pas au moment où nous sommes baptisés que la chose s'est faite, c'est à la croix, comprenez-vous? C'est à la croix. Alors, si vous croyez cela, eh bien, vous avez saisi le sens profond du baptême, notre identification au Christ dans sa mort et sa résurrection. Et alors, les parents devraient alors élever leurs enfants dans la foi chrétienne et les amener à cette fameuse ratification du vœu qui a été fait à leur baptême pour que ce soit l'enfant lui-même qui prenne cette décision, mais la plupart du temps, on ne peut pas faire autrement dans nos familles, même si on n'est pas prêt. Et c'est pourquoi de plus en plus, on arrive à ce qu'on appelle une clôture de catéchisme, on enseigne l'enfant et on ne l'oblige plus de faire cette communion, cette ratification. Il faut que ça vienne de lui-même, parce qu'on a peur de tout bousculer en revenant au système primitif, n'est-ce pas, où l'on baptisait seulement ceux qui croyaient et qui étaient en âge de pouvoir prendre une décision et de pouvoir confesser le nom du Seigneur. Mais voilà, au cours des siècles, eh bien, tout cela a été changé, transformé, et alors on a ajouté l'histoire du parrain, de la marraine, et finalement, et je vous promets que moi j'ai entendu des sœurs, des religieuses me dire, Monsieur Racine, je vous en supplie, travaillez à faire cesser ce folklore. Nous n'en pouvons plus de notre folklore. Ces gens qui viennent avec le petit bébé, là, on les a jamais vus à l'église, puis tout d'un coup, ils viennent avec le bébé en blanc, là, et puis on lui met quelques gouttes, puis après on ne les revoit plus. Nous ne voulons plus de ce folklore. Et alors on essaye aussi, un jour, un prêtre m'a téléphoné parce que on veut remettre le baptême par immersion, mais si on immerge un enfant, on risque de le noyer, alors on m'a demandé comment il fallait faire pour ne pas noyer l'enfant si on le plonge vraiment dans le baptistère ou dans la grande cuvette que l'on a.
Alors, et surtout si on plonge trois fois, au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Mais encore quand vous le passez, ça va. Mais si on le laisse sous l'eau, comme ça a été le cas pour moi quand j'avais 4 mois, eh bien ça va... Et puis, on doit vous faire la respiration artificielle après, parce que si on me dit, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand je suis sous l'eau, j'ai le temps, bébé, de tout avaler. Hein? Alors après, on peut jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyez-vous, nous sommes des stupides. Laissons-nous enseigner, le Seigneur vous donnera de l'intelligence en toute chose. Comprenez que la lettre tue et que seul l'esprit vivifie. Puis dites-vous, aujourd'hui, le Seigneur m'invite, sans préalable. Il ne me demande pas comment j'ai été baptisé, quelle quantité d'eau on a mis. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur? Alors il vous dit, faites ceci en mémoire de moi. Tout le reste, ça va se replacer. C'est lui qui va le replacer. Croyez-le. Mais alors, si vous vous approchez de cette table, si vous prenez vous-même de la main du Seigneur, non pas de la mienne, mais de la main du Seigneur, ce pain et ce vin, en discernant le corps de Christ, et en mangeant, vous dites, Seigneur, je t'aime pour qui m'a aimé premier. En buvant, vous pouvez dire, Seigneur, je crois, je bois tes paroles, je crois ce que tu as dit, je crois. Tout cela me pénètre en moi. Alors, il y a communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Une communion merveilleuse. Et alors, non pas seulement une communion avec le Père et le Fils et son Esprit, mais une communion les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller à la table du Seigneur en disant, moi je communie pour moi tout seul. Mais on communie dans le groupe, on communie dans la communauté, et non seulement dans la communauté, mais en nous associant à tous les vrais croyants, à tous ceux que le Seigneur connaît, il connaît ceux qui sont siens dans toutes les églises, dans toutes les confessions, que ce soit la confession catholique, que ce soit la confession orthodoxe, ou les confessions protestantes ou évangéliques, on se sent en communion à travers tous les âges, avec tous ceux qui ont aimé le Seigneur Jésus, et qui ont voulu le suivre. C'est ça la vraie unité. Si vous annoncez la mort du Seigneur, il est mort pour tous, il est mort pour mon frère, pour ma soeur, alors nous avons une unité merveilleuse. Le Seigneur est mort, non seulement pour nos péchés, mais il est mort pour que nous soyons délivrés du pouvoir du péché. Et dans la foi, je dis, Seigneur, que dans cette semaine, j'accepte plutôt de tout souffrir plutôt que de tomber dans le péché. Je suis mort. Je vais réaliser ça. Je suis mort. Tu l'as dit. Eh bien, Seigneur, je suis mort. Et puis, quant à ma chair, comme la tienne a été clouée, la mienne, elle restera à la croix. Je ne vais pas la glorifier. Je ne vais pas essayer de faire quelque chose avec ma chair. Je sais que ma chair n'est capable d'aucun bien. Alors, ma chair, par ton esprit, elle reste à la croix. J'ai communié dimanche. J'ai communié en ce jour parce que dans l'église primitive, c'était tous les jours qu'on communiait, parce qu'on se rappelait cela tous les jours, pour que ce soit vivant, toujours vivant. Alors, on a toujours fait Jésus devant les yeux dans la journée, avant d'agir, avant de parler. Est-ce que Jésus disait cela? Est-ce que Jésus ferait cela? C'est pas pénible, parce que tout ce que Jésus faisait, c'était bien. Alors vous commencerez à faire des choses qui sont bonnes, parce que c'est lui qui les fera en vous. Toutes vos œuvres, c'est lui qui va les accomplir pour vous. Laissez-lui la disposition de vos membres. C'est cela la communion au Christ. Alors on arrive vraiment à être aussi délivré de la loi. Christ a pris sur lui tous nos péchés et il a satisfait les exigences de la loi. Or, quand la loi, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour nous? Si vous êtes sous la loi, qu'est-ce que vous savez que la loi fera? Elle condamne. La loi ne pouvait pas faire autre chose que vous condamner. Elle vous donne la connaissance du péché, mais elle ne vous donne pas la force pour en sortir. Alors, si vous restez sous la loi, eh bien, vous êtes toujours sous la malédiction. Eh bien, Jésus est mort pour que nous soyons délivrés de la puissance de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Les exigences de la loi ont été satisfaites dans la mort du Christ. Dans sa mort, puisque la loi demandait la mort, eh bien, nous sommes morts aussi à la loi. C'est plus la loi qui nous dirige, c'est la grâce. Mais une grâce alors qu'il fait naître en nous un amour pour le Seigneur. On ne fait plus les choses pour gagner le ciel, mais on les fait parce qu'il nous a donné le ciel. Et c'est ça qui est tellement merveilleux. Une vie d'amour, une vie où vous agissez parce que vous aimez. Et quand on aime, on peut faire même des folies pour celui qu'on aime, pour celle qu'on aime. Et en fait, des folies pour Dieu. La vraie folie, c'est de l'aimer. De l'aimer, être des fous pour Dieu. On vous traitera de fous, mais c'est la bonne folie, celle-là. Parce que Dieu, il était fou d'amour pour nous. Pour nous aimer à ce point-là, il fallait être fou. Eh bien, Dieu dit, il parle dans l'Écriture de cette folie de Dieu. Il nous a aimés à la folie. Et comment l'aimons-nous en retour? Bien que le Seigneur vous parle et que nous arrivions vraiment à cette adoration et à comprendre aussi que nous ne sommes pas seulement morts à la loi, mais morts au monde. Paul dit, maintenant que j'ai vu ce que le monde a fait au Christ, eh bien, je suis crucifié, moi, pour le monde. Et le monde m'est crucifié. Qu'est-ce que vous voulez que j'attende du monde? Je sais ce que le monde apporte. Et finalement, ce qu'il nous apporte, c'est le trou. C'est tout ce que le monde nous donne. Hein. Parce que quand on meurt, on n'a plus de place sur la terre. Il faut nous mettre sous terre. Alors que Jésus nous dit, moi j'ai été vous préparer une place. Et si je suis allé vous préparer une place, je reviendrai. Et dans le souvenir de sa mort, il est mort aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Et voyez-vous, c'est là, et c'est mon dernier point que l'Esprit me donne. Caïphe a dit, il est préférable qu'un seul meure pour le salut de la nation. Et il a prophétisé sans le savoir que Jésus devait mourir pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dans la communion, nous manifestons notre unité, que nous ne sommes plus des isolés, mais que nous sommes ensemble. Le corps de Christ. Nous discernons les autres. Les autres ont une importance pour nous. Nous discernons le corps de Christ. Et alors, si un membre souffre dans le corps, tous les autres souffrent. Si un membre se réjouit, tous les autres se réjouissent. C'est pourquoi à la table du Seigneur, quand on s'en approche, il faut être en paix les uns avec les autres. Vous êtes en paix avec votre frère, avec votre sœur? Est-ce que vous avez pardonné à votre frère ou à votre sœur, même qui vous ont offensé? Pourquoi est-ce qu'on récite dans les églises la prière dominicale? Parce qu'elle contient ce mot, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous pouvons la faire, cette prière, maintenant? Nous pouvons nous lever pour la faire? En pensant à ce que nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.